Rencontre autour d'un auteur. Une émission proposée par Nicole Villeroux en partenariat avec la Bibliothèque diocésaine.
Bonjour, bonjour à tous, fidèles auditeurs des rencontres littéraires mensuelles et ceux qui vont les découvrir. La nouvelle offensive de la pandémie a fermé la bibliothèque diocésaine et je remercie Radio Fidélité pour continuer le programme 2020-2021 « Écrivains, pèlerins de la planète ». Notre troisième rencontre, celle d'aujourd'hui donc, est consacrée à Blaise Cendrars. Blaise Cendrars ou l'amant secret des choses. Cet écrivain est né le 1er septembre 1887 à La Chaux-de-Fonds en Suisse, et de Frédéric-Louis Saussaire. Donc son nom, son patronyme, c'est Saussaire. Blaise Cendrars, c'est son nom de plume. Il naît dans une famille bourgeoise. Georges Saussaire, homme d'affaires, instable et malchanceux, et Marie-Louise Dorneur, sa mère, est sujette à la neurasthénie. La fratrie est composée de 5 enfants, et Freddy Saussaire est le troisième. De 1894 à 1896, sa famille séjourne à Naples. Effectivement, son père, on va dire, est un aventurier des affaires. Malheureusement, il se fait régulièrement berner ou voler ses idées et c'est ce qui se produira à Naples. Mais ce séjour napolitain va marquer durablement l'enfant et il s'en souviendra dans son livre « Bourlingué » et qui retrace beaucoup de ses souvenirs. Voici donc ce qu'il dit de ce séjour napolitain. À Naples, nous habitions une immense propriété en forme de triangle rectangle dont le sommet, occupé par notre grande habitation, fenêtres, balcons, terrasses encadrant de haut les rues étroites, les ruelles sombres, les venelles pleines de linge à sécher qui descendaient au basso porto, se situait exactement au pied des murailles abruptes du fort Saint-Elme. Le canon sonnant midi, son souffle chaud gonflait les rideaux de la salle à manger, ce qui faisait chaque fois tressaillir maman. Dont la base était le tracé rectiligne du corso Victor Emmanuel II, et dont les deux côtés étaient dessinés, celui de gauche par la voie à crémaillère du funiculaire, bordé d'une rangée de cactus à raquettes, à épines et à coutelas, figuiers de barbarie, agaves, aloès portant leurs fleurs au bout d'un mât souvent brisé, celui de droite par un vieux mur et par endroits hors haut, plein de fougères, d'iris, de capillaires, grouillant de lézards, qui couraient vivement se dissimuler dans les fentes sous ces touffes de petites fleurs bleues si fragiles qu'on les croirait de porcelaine et que le vulgaire nomme des ruines de Rome, crêtés de tessons de bouteilles qui suivaient tous les tours et les détours, les circonvolutions de la Salita de San Martino, une rampe très animée qui montait au Vomero, doublée d'un soubassement de ronces, d'épines et de broussailles, de coulées de détritus, de gravats, de poteries et de vaisselle cassée, d'ustensiles hors d'usage que le petit peuple habitant la calade jetait par-dessus le mur et déboulit comme un vieux rempart. Maman ne s'y plaisait pas. Elle avait peur des voleurs. Mais les enfants, mes frères et sœurs, et les 4 filles Ricordi, mon père avait invité son amie à venir habiter chez nous, ce que maman supportait avec mauvaise grâce. Elle trouvait le photographe sans gêne et mal élevé, et c'était vrai qu'il l'était, mais c'était un si gai convive à table, riant à l'italienne, baffrant, buvant, déboutonné, en manches de chemise, et toujours en train de conter des anecdotes sur la cour et les grands personnages qu'il fréquentait. Et pour divertir ses filles, il mimait les scènes, gesticulait. Mais les enfants, surtout Elena et moi, qui étions les plus petits, tenus un peu à l'écart, moi parce que maman faisait déjà de la neurasthénie et avait trop de soucis, Elena parce que son père eût préféré avoir un garçon, comme le roi son maître, et le prince héritier son protecteur, le prince de Naples, qui annonçait déjà avoir assuré sa succession, la venue d'une fille l'avait déçu. Les enfants vivaient dans l'enchantement du merveilleux jardin dont maman avait formellement interdit de franchir l'enceinte, toujours à cause des voleurs qui, d'après elle, foisonnaient et étaient à l'affût des petits-enfants et plus particulièrement des enfants des riches étrangers pour les enlever et rançonner les familles. Je ne puis imaginer de qui elle tenait ces idées absurdes, sinon de Miss Sharp, notre gouvernante anglaise. Lily vivant dans la hantise de la main noire. Elle collectionnait les journaux qui parlaient de la mafia, adressait des lettres de mise en garde au Times et se sauvait à la vue du commis d'un fournisseur pénétrant dans le jardin. On ne pouvait mieux choisir pour déformer l'âme d'un enfant que cette gouvernante stupide, vieille fille à migraine, pleine de préjugés et de superstitions ridicules et qui tremblait comme une feuille. Les parents commettent de ces erreurs-là, croyant bien faire et par snobisme. Je ne sais qui nous avait recommandé Lily. Elle resta des années avec nous. Mais mon père m'avait donné un chien, un matin jaune et noir qui s'appelait Léone, lion en compagnie de qui je ne craignais rien ni personne quand j'allais à la chasse aux escargots le long du vieux mur qui bordait la rampe malfamée de la calade. D'ailleurs, la grille du bas sur le corso, l'entrée des voitures était surveillée par Ernest, notre portier, et la petite poterne du haut qui donnait sur la place San Martino, à 100 mètres de la maison à droite et à laquelle se présentaient les fournisseurs. Le matin, c'était Pasquali, notre laitier, qui sonnait le premier et qui attendait au milieu de ses chèvres bêlantes, amenant sa vache Caroline, qu'on lui avait achetée pour moi et qu'il trayait devant la porte, souvent accompagné de Bépino, son dernier né, un garçonnet de mon âge, à califourchon sur la bête, ce qui me faisait envie. Et j'aurais bien voulu descendre en ville, faire la tournée avec eux. La poterne était toujours fermée à double tour et triple verrou et munie d'un judas, et ne s'ouvrait qu'à l'appel d'une grosse cloche qui s'entendait dans tous les recoins de la maison et après constatation de l'identité du sonneur. Donc on voit ici les souvenirs très vifs et quelque peu enjolivés, nous en reparlerons, l'imagination de Blaise Cendrars est très féconde, mais en tout cas, ce séjour à Naples l'a profondément marqué. En 1902 et 1903, il se lance dans des études médiocres à l'école de commerce de Neuchâtel, et puis son père, voyant que vraiment, l'école n'était pas faite pour ce garçon-là, envoie Frédéric en apprentissage en Russie, à Moscou puis à Saint-Pétersbourg, chez un horloger, Henri-Albert Lebas, où il va faire aussi l'apprentissage de la poésie. En 1907, il rentre en Suisse. En 1908, sa mère meurt. En 1909, il entreprend en auditeur libre des études à l'université de Berne, des études de médecine. Il y rencontre une étudiante polonaise, Félicie, qu'il appellera Fela, Poznanska, qui deviendra sa femme, et ils auront 3 enfants. En 1910, il vagabonde. Blaise Cendrars est un grand vagabond. Il retourne à Saint-Pétersbourg en 1911. Sa femme est alors à New York et l'invite à l'y rejoindre. Ce qu'il fait. Et en 1912, il ébauche les Pâques qu'il signe Blaise Cendrars. Alors voilà l'origine de son nom. Cendre, les cendres, plus l'art, Cendrars, égale le phénix qui renaît de ses cendres. Il rentre à Paris et il publie les Pâques à New York au mois de novembre. Les Pâques à New York sont un recueil de poèmes, il va en faire un certain nombre, parce qu'il se lance d'abord, comme beaucoup d'écrivains, d'abord dans la poésie. Voici Pâques à New York. Seigneur, c'est aujourd'hui le jour de votre nom. J'ai lu dans un vieux livre la geste de votre passion. Et votre angoisse, et vos efforts, et vos bonnes paroles, qui pleure dans le livre doucement monotone. Un moine d'un vieux temps me parle de votre mort. Il traçait votre histoire avec des lettres d'or. Dans un missel posé sur ses genoux, il travaillait pieusement en s'inspirant de vous. À l'abri de l'autel, assis dans sa robe blanche, il travaillait lentement du lundi au dimanche. Les heures s'arrêtaient au seuil de son retrait. Lui s'oubliait, penché sur votre portrait. À vêpres, quand les cloches psalmodiaient dans la tour, le bon frère ne savait si c'était son amour ou si c'était le vôtre, seigneur ou votre père, qui battait à grands coups les portes du monastère. Je suis comme ce bon moine ce soir. Je suis inquiet, dans la chambre à côté, un être triste et muet, attend derrière la porte, attend que je l'appelle. C'est vous, c'est Dieu, c'est moi, c'est l'Éternel. Je ne vous ai pas connu alors, ni maintenant. Je n'ai jamais prié quand j'étais un petit enfant. Ce soir, pourtant, je pense à vous avec effroi. Mon âme est une veuve en deuil au pied de votre croix. Mon âme est une veuve en noir, c'est votre mère, sans larmes et sans espoir, comme la peinte carrière. Je connais tous les Christs qui pendent dans les musées. Mais vous marchez, Seigneur, ce soir, à mes côtés. Alors, comme je vous l'ai dit, Sandrart s'adonne d'abord à la poésie. Il rentre à Paris en 1913, il fréquente les avant-gardes, en particulier celle des peintres, et Fernand Léger sera un ami de toute une vie. C'est à ce moment-là une vie extrêmement bouillonnante dans le milieu artistique parisien. Et au mois de novembre de cette année 1913, il va publier « La prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France ». Alors c'est un long poème sous tableau, en forme de dépliant de 2 mètres, illustré de compositions simultanées de Sonia Delaunay. En effet, il fréquente très assidûment le couple Delaunay et ils vont réaliser ensemble une rareté bibliographique que cette prose du Transsibérien. Dans ce long poème, il se souvient, et il imagine beaucoup aussi, son voyage d'adolescent, son séjour en Russie, d'où prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, qui est une jeune fille dont il serait tombé amoureux à l'occasion de ce voyage. Alors voilà le début de ce poème. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares. Et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était alors si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou, quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes, et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches et l'or mielleux des cloches. Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. J'avais soif, et je déchiffrais des caractères cunéiformes. Puis, tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place et mes mains s'envolaient aussi avec des bruissements d'albatros. Et ceci, c'était les dernières réminiscences du dernier jour, du tout dernier voyage et de la mer. Pourtant, j'étais fort mauvais poète, je ne savais pas aller jusqu'au bout. J'avais faim, et tous les jours et toutes les femmes dans les cafés et tous les verres, j'aurais voulu les boire et les casser. Et toutes les vitrines et toutes les rues et toutes les maisons et toutes les vies et toutes les rues des fiacres qui tournaient en tourbillon sur les mauvais pavés, j'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaive et j'aurais voulu broyer tous les os et arracher toutes les langues et liquéfier tous ces grands corps étrangers et nus sous les vêtements qui m'affolent. Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la Révolution russe et le soleil était une mauvaise plaie qui s'ouvrait comme un brasier. En ces temps-là, j'étais en mon adolescence, j'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de ma naissance. J'étais à Moscou, je voulais me nourrir de flammes et je n'avais pas assez des tours et des gares que constellaient mes yeux. En Sibérie, tenait le canon, c'était la guerre, la faim, le froid, la peste, le choléra et les eaux limoneuses de l'amour charriées des millions de charognes. Dans toutes les gares, je voyais partir tous les derniers trains. Personne ne pouvait plus partir car on ne délivrait plus de billets. Et les soldats qui s'en allaient auraient bien voulu rester. Un vieux moine me chantait la légende de Novgorod. Alors, très beau poème qui fait allusion au voyage aussi, aux gares qui joueront un grand rôle dans la vie de Blaise Sandrart, qui est avant tout un grand voyageur, un pèlerin de la planète. Cet homme parcourra en vrai une bonne partie de notre bonne vieille terre, mais aussi il voyagera en rêve et nourrira son œuvre aussi d'une imagination fertile, d'une immense culture. Blaise Sandrart est d'une très très grande culture, il a dévoré des bibliothèques, c'est vrai, Et il nourrit cette œuvre de cet amour du mouvement, du voyage, de la découverte, mais également du voyage livresque. Arrive la guerre. Alors, n'oublions pas que Blessandrard est suisse. La Suisse est neutre, donc il pouvait tout à fait rentrer chez lui et y attendre des jours meilleurs. Eh bien, ça n'était pas du tout dans sa nature. Et le 3 août, il s'engage dans la Légion étrangère. Il va partir au front, y faire une année sur la Somme, dans la Champagne, tout le début de cette guerre. Et en 1915, il apprend sur le front, au mois de septembre, la mort de son grand ami Rémy de Gourmont, son maître. Rémy de Gourmont est un écrivain fort oublié aujourd'hui. C'est assez dommage. C'est quelqu'un qu'il est allé voir dès qu'il est arrivé à Paris et qu'il a considéré comme son maître. Et le lendemain, donc le 27 septembre, il apprend la mort de son maître. Et le lendemain, 28 septembre, il est grièvement blessé à la ferme de Navarin. Et il va être amputé du bras droit au-dessus du cou. Donc, il va perdre ce bras. Il est droitier. Il est naturalisé français en 1916. Et en 1917, il passe l'été à Méréville, en Seine-et-Oise, où il s'exerce à écrire de la main gauche, parce qu'il lui faut devenir gaucher maintenant. Et il va faire en cette année 1917 une rencontre qui va être celle de sa vie, celle d'une jeune actrice, Raymonde Duchâteau. Et ils vont vivre tous les deux un amour idéalisé qui va durer jusqu'à la mort. Raymonde Duchâteau l'accompagnera de 1917 jusqu'au bout et ils se marieront quelques années avant le décès de Blessandrard. Alors, ma foi, le voici amputé. En 1918, il tourne comme figurant dans le J'accuse d'Abel Gance. Il est très, très ami avec le grand cinéaste et il l'assiste en 1920 pour le tournage d'un autre de ses films, La Roue. En 1919, naît sa fille Myriam. Il avait eu auparavant Odilon en 1914, Rémy en 1916 et donc la troisième, c'est Myriam. Myriam, sa fille, qui fera énormément pour que le souvenir de Blessandrard ne disparaisse pas. Elle sera très fidèle à la mémoire de son père et ça vraiment agira énormément pour l'œuvre de son père. En 1924, il s'embarque pour le Brésil, où il va découvrir ce qu'il appellera son Utopia Land. Et il y retournera à trois reprises. Le Brésil, avec sa diversité, sa richesse naturelle, sa vie, c'est une terre pleine de vie, ne peut que le séduire. Et voilà ce qu'il écrit. C'est au Brésil, terre instable et en formation, qu'il lui est possible de lire sur le vif la dernière page de la Genèse. Il rentre en France et s'installe à Tremblay-sur-Maude, près de Versailles, où il écrit son premier roman. Il quitte la poésie. Il écrit « L'or, la merveilleuse histoire du général Johann Auguste Suter », qui va faire de lui le romancier de l'aventure, qui ça sera publié en 1925. Alors, Johann Auguste Suter, c'est celui qui a découvert l'or de la Californie et qui va générer la ruée vers l'or. Et lui, malheureusement, loin de s'enrichir, en sortira tout à fait ruiné. Donc, l'or est le grand roman qui fait connaître Sandrard. Il retourne au Brésil en 26, puis à nouveau en 27 et publie à ce moment-là un autre roman, Moravagine, roman un peu particulier, roman d'un crime. En 1930, il va se rendre en Dordogne, à Montpazier, pour enquêter sur un homme qui s'appelle Jean Galmot, qui a été député et homme d'affaires, et il publiera ce texte sous le titre de « Rome » chez Grasset. Il reçoit la visite de John Dos Passos, un très grand écrivain américain qu'il avait rencontré en 1923, et John Dos Passos s'était engagé également pour faire la guerre en France. Il était arrivé avec les troupes américaines en 17. Et donc, Dos Passos vient le voir à ce moment-là parce qu'il fait son voyage de noces en France. En 1937, Sandrard voyage en Espagne et au Portugal, divorce de sa femme Fela et publie Histoire vraie. Alors, Histoire vraie, c'est un recueil de nouvelles. Alors, vrai, il faut toujours faire attention avec Blaise Sandrard parce que la vérité, c'est quelque chose de très élastique chez lui. Et je vais vous lire une partie d'une de ses nouvelles, L'égoutier de Londres. Alors, cet égoutier de Londres, ce personnage, il l'avait rencontré à la Légion étrangère, donc pendant la guerre. Et cet homme qui ne parlait pas à grand monde, mais ma foi, un jour s'était confié à lui. C'était en décembre 14 que Griffiths avait refusé de partager Macania pour accomplir ses premières prouesses dans une tourbière de la Somme. Et c'est fin juin 1915, alors que nous occupions dans le parc du château de Tillaulois un secteur pépère, au point que les plus dégourdis couchaient sous la tente, que cet original vint s'abriter dans mon gourbi, et pour une fois que nous étions bien tranquilles dans de la verdure, trouva le moyen d'être emporté en quelques jours par une mauvaise fièvre. S'il me fit alors des demi-confidences, ce n'est pas que nous étions devenus amis ni même copains, un Anglais ne se livre pas aussi facilement, et Griffiths était de nature un bourru. Mais entre-temps, nous avions fait les attaques du mois de mai au nord d'Arras, Notre-Dame-de-Lorette, les ouvrages blancs, la crête de Vimy, le cimetière de Souchet, les dernières bicoques de Carency, et il y avait eu un tel massacre que forcément les rares échappés à cette boucherie se serraient instinctivement les coudes et faisaient un peu bande à part dans ce grand va-et-vient de cingler, d'écloper, de récupérer, de nouveaux renforts, de raclure du dépôt, de toute une mouscaille de gens foutres qui nous arrivaient, nous tombaient pêle-mêle de dessus, se débinaient avec une bonne blessure, cavalaient dardard, re-rappliquaient. Je ne puis même pas parler de camaraderie entre Griffiths et moi. Ce solitaire était par trop méprisant, mais je savais que l'homme m'était attaché. Pourquoi, à sa fichtre, je n'en sais rien, par exemple. Peut-être tout simplement parce que je semblais ne pas remarquer ses excentricités et qu'en tout cas, je n'y attachais aucune importance. Ou encore parce que nous avions tous les deux un commun goût du risque. En effet, chaque fois que je partais en patrouille, cet animal de Griffiths se démerdait pour sortir avec moi et alors il se collait à moi, marchait dans mon ombre, imitait tous mes mouvements, se couchait, se levait, rampait, impatient, nerveux, un peu trop surexcité peut-être, car il flairait le danger, mais prêt à se jeter en avant. J'aimais bien patrouiller avec lui, car en patrouille, notre entente était parfaite. Mais une fois rentré, cela ne durait pas. D'ailleurs, personne ne pouvait s'entendre longtemps avec Griffiths, qui avait un caractère difficile et ombrageux. Aussi, personne ne l'aimait-il. Il n'était pas liant, pas causant. Il se tenait volontairement à l'écart, fumant sa pipe, hostile, et il ne desserrait les dents que pour gueuler. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'aussi mal embouché que lui. Et quand Griffiths remettait en place un malabar qui avait essayé de le charrier ou un tir au flanc qui avait voulu le faire marcher, ou quand il se mettait à râler après le jus, le tabac ou le rabiot de pinard dont il surveillait fébrilement la distribution, ce petit bout d'homme taciturne et morose était étourdissant, tant par sa verve, sa rage, sa violence exagérée, que par l'inattendu de ses invectives qui sortaient à jets continus. Par le pittoresque de son vocabulaire farci de gros jurons de palefrenier et d'énormes cochonneries, par la drôlerie de son accent inimitable mi-parti cockney et belvillois. Par contre, personne ne peut se vanter d'avoir jamais entendu ce vieux légionnaire se plaindre, ni avoir vu ce soldat épuisé, bronché ou bien flanché ou reculé devant une corvée ou avoir une défaillance. Et durant tout ce long hiver qu'il passa avec nous, et quel que fût son état de santé toujours aussi mauvais que le premier jour, jamais cet homme chancelant ne consentit à se faire porter malade, et surtout pas quand, sentant sa fin prochaine, il se glissa un soir dans mon gourbi me disant « Je prends ta place, caporal, hein, je me couche, c'est battre chez toi. Il n'y manque qu'un pot de fleurs, tu ne diras rien à personne, tu craches hein, et tu me le jures. Moi je suis fini, je vais crever, et je voudrais qu'on me foute la paix pour me barrer en douce, t'as compris ?» Alors voilà. Alors, c'est un portrait extrêmement humain, extrêmement vivant, comme sait parfaitement les faire Blaise Sandrard, parce que cet homme sait parfaitement percevoir l'humanité des êtres, la profondeur. Sous ses airs un peu gouailleurs, un peu emportée, on va dire. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a une humanité extrêmement profonde. Sandra est profondément humain. Et donc, je vous encourage tout à fait à lire ces histoires vraies. Alors, entrant arrive la guerre de 39. En 39, il s'engage comme correspondant de guerre dans l'armée anglaise. En 40, il séjourna à Londres où sa fille est dans le service, participe au service de presse du général de Gaulle. Et sa fille se fera une carrière dans le journalisme ensuite. En juillet 40, il va quitter Paris pour Aix-en-Provence où il va demeurer jusqu'en 1948. Et pendant 4 ans, il va se replier dans la solitude. Dans une espèce de la solitude et la dépression, pour la seconde fois, il vit une guerre et il n'arrive pas à écrire. Et c'est comme ça qu'un jour d'août 40, il va recevoir la visite d'un romancier, Édouard Pesson, qui va lui dire « Mais remets-toi à écrire. Pour t'en sortir, il faut que tu écrives. » Et il va écrire une tétralogie dont il va dire « Ce sont des mémoires qui sont des mémoires sans être des mémoires. » Ça, c'est tout à fait Sandrard. Et c'est ainsi qu'en 1945, au sortir de la guerre, il va publier « L'homme foudroyé ». Alors, cette tétralogie que vous pouvez trouver en livre de poche, c'est « L'homme foudroyé »,« La main coupée et bourlinguée ». Je vais vous lire un passage de « L'homme foudroyé ». Il évoque Marseille. Alors, dans ses nombreuses pérégrinations, il est bien souvent passé par Marseille, ne serait-ce que pour s'embarquer dans des voyages au long cours. Et puis, il a vécu quand même à Aix-en-Provence un certain nombre d'années. Et donc, dans L'homme foudroyé, il va décrire Marseille, un chapitre qui s'appelle « Secret » au pluriel de Marseille. Je n'ai jamais habité Marseille et une seule fois dans ma vie, j'y ai débarqué descendant d'un paquebot, le D'Artagnan. Mais Marseille appartient à celui qui vient du large. Marseille sentait l'œil poivré ce matin-là. Marseille est une ville selon mon cœur. C'est aujourd'hui la seule des capitales antiques qui ne nous écrase pas avec les monuments de son passé. Son destin prodigieux ne vous saute pas aux yeux, pas plus que ne vous éblouisse sa fortune et sa richesse, ou que ne vous stupéfie par son aspect ultra-ultra, comme tant d'autres ports up-to-date. Le modernisme du premier port de France, le plus spécialisé de la Méditerranée, est l'un des plus importants du globe. Ce n'est pas une ville d'architecture, de religion, de belles lettres, d'académie ou de beaux-arts. Ce n'est point le produit de l'histoire, de l'anthropogéographie, de l'économie politique ou de la politique royale ou républicaine. Aujourd'hui, elle paraît en bourgeoisie et populacière. Elle a l'air bon enfant et rigolarde. Elle est sale et mal foutue. Mais c'est néanmoins une de ces villes les plus mystérieuses du monde et des plus difficiles à déchiffrer. Je crois tout simplement que Marseille a eu de la chance. D'où son exubérance, sa magnifique vitalité, son désordre, sa désinvolture. Oui, Marseille est selon mon cœur et j'aime que sise dans une des plus belles assiettes du rivage de la Méditerranée, elle ait l'air de tourner le dos à la mer, de la bouder, de l'avoir bannie hors de la cité. La canebière ne mène pas à la mer, mais s'en éloigne. Alors que la mer est sa seule raison d'être, de travailler, de s'activer, de spéculer, de construire, de s'étendre, et que tout le monde en vit directement, du plus gros richard de la ville au plus famélique pilleur d'épaves. C'est qu'à Marseille, tout a l'air d'avoir été relégué. La mer derrière des collines désertiques, le port au diable Vauvert, si bien que l'on peut aimer jusqu'à ses laideurs, le moutonnement interminable de ces tristes maisons de rapport, ces rues bancales, ces ruelles enchevêtrées, les quelques édifices insignifiants construits sous le Deuxième Empire ou la Troisième République, disséminés de par la ville, les usines neuves et les raffineries et les vieux moulins à huile semés un peu partout, les palais à l'italienne des nouveaux riches ou leurs villas syriaques prétentieuses, l'outrageant style de Notre-Dame de la Garde et de la cathédrale, la fausse façade et l'escalier faunesque de la gare Saint-Charles ou le ridicule du gazomètre de la Viste ou l'attendrissante silhouette du pont transbordeur pour lequel les Marseillais qui adorent les diminutifs familiers n'ont jamais trouvé un petit nom tendre tel que la Toinette ou la Guêpe ou la Veuve Joyeuse. c'est que cet immense portique, comme tout le reste, semble perdu en ville et que réellement tout cela n'a aucune espèce d'importance. D'ailleurs, personne n'y fait attention. J'ai peine à croire que le guide Michelin ou le Baedeker puissent encore en parler sérieusement. Jamais Marseille n'a essayé de se dépasser et de faire grand, trop grand, voire grandiose. C'est une ville qui reste humaine. Il n'y a pas de ruines, et quelles leçons pour les urbanistes. Marseille, presque aussi ancienne que Rome, ne possède aucun monument. Tout est rentré sous terre, tout est secret. Et c'est à l'image de la chance de Marseille, de la chance tout court. La chance qu'Henri Poincaré a vainement essayé de capter dans une formule mathématique, ainsi que tous les joueurs savent qui ont tenté fortune sur le tapis vert, en tablant sur cette formule que l'on trouve dans les œuvres complètes de l'éminent mathématicien. La chance, cela ne s'enseigne pas, mais c'est un fait, une conjoncture. Voyez Marseille, on peut apprendre à jouer aux cartes, on peut même apprendre à tricher aux cartes. Mais la chance, cela ne s'apprend pas, on l'a. Et celui qui l'a ne s'en vante pas, il se tait, c'est son secret. Cet air de secret sur lequel on bute partout à Marseille. Alors vous voyez encore une fois sa faculté d'observation. Le portrait du légionnaire Griffith, là le portrait de la ville de Marseille. Ce sont deux exemples de la façon dont écrit, alors avec parfois des phrases très longues, très très longues, mais extrêmement vivantes, extrêmement sensibles. Sandrard a un style tout à fait particulier et une manière tout à fait particulière d'aborder la réalité, hein, ce qui lui donne effectivement un côté magique, hein, un côté d'amant, amant secret des choses. Donc, il publie sa tétralogie et puis, le 27 octobre 1949, il épouse enfin Raymond. Blaise Sandrard et Raymond se marient en Suisse. Donc, il revient dans sa patrie originelle. Donc, en 1950, il s'installe définitivement à Paris et continue d'écrire, mais surtout va produire énormément d'émissions à la radio et un certain nombre d'interviews. Vous pouvez les réentendre sur Internet. Les problèmes de santé arrivent avec la vieillesse. Et en 1959, Malraux vient à son domicile lui remettre la Légion d'honneur. Malheureusement, il va faire une deuxième attaque cérébrale et va se retrouver grabataire. On lui donnera in extremis le 17 janvier 61 le Grand Prix littéraire de la ville de Paris, mieux vaut tard que jamais, et 4 jours après, malheureusement, il décède. Il va être enterré au cimetière des Batignolles. Je voudrais vous lire ce qu'il a écrit dans Bourlinguer, qui est un roman. Je vous conseille d'ailleurs de commencer « Découvrez Sandrard » avec Bourlinguer. C'est une excellente introduction à son œuvre. Et si vous accrochez à Bourlinguer, alors vous pourrez lire tout le reste. Voilà ce qu'il écrit. C'est la fin, presque la fin de Bourlinguer. « Faisons la part des choses et tenons compte de l'entraînement auquel me voue mon comportement d'écrivain, qui laisse courir les 5 doigts de sa main gauche sur le clavier de sa machine à écrire, dans la solitude d'un meublé loin de toute contingence, mais l'esprit extra-lucide. Le portrait est synthétique, donc déformé. Mais je jure que je n'exagère pas ou à peine. Cependant, comme j'en ai déjà noté quelques-uns au début du présent paragraphe, en introduisant le personnage, je vais encore ajouter quelques traits familiers dans les 2-3 anecdotes qui vont suivre pour corriger ce que ce portrait a de trop abstrait. On ne vit pas dans l'absolu. Nul homme n'est coulé d'une seule pièce. Même un robot connaît la panne. Sans contradiction, il n'y a pas vie. Le cœur, le corps, l'âme, l'esprit, le souffle, tout peut être en contradiction dans le même individu et jusque dans son entêtement, l'intelligence est en contradiction avec la nature profonde de l'homme. La vie n'est pas la logique, l'art du portrait, la perspective, la création de l'écrivain, la ressemblance. Le monde est ma représentation et c'est pourquoi les journaux paraissent toutes les 24 heures avec leurs fautes de français et leurs bourdes et leurs coquilles. Nous ne connaîtrons jamais d'autres traces de vie, vie de la planète, vie de l'individu, que ce qui monte à la conscience sous traces d'écriture. Des pattes de mouche. Parlez-moi après ça, après de beaux langages, de style et de grammaire. Et c'est pourquoi l'écriture n'est ni un songe, ni un mensonge, de la poésie. Donc réaction, donc action. Et l'action seule libère. Sinon, Il se forme un court-circuit, l'univers flambe et tout retombe dans la nuit de l'esprit. Je crois que cela résume parfaitement le sens de son œuvre. Et je voudrais vous dire la lecture de son épitaphe. Il avait composé une épitaphe pour lui. « Là-bas gît Blaise Cendrars, par latitude zéro, 2 ou 3 dixièmes sud, 1, 2, 3 douzaines de degrés longitude ouest, dans le ventre d'un cachalot, dans un grand cuveau d'indigo. » Voilà qui résume bien le personnage aussi. Alors, je vous encourage à découvrir Blaise Cendrars. Vous pouvez trouver ses œuvres en livre de poche, hein, sans problème, dans le livre de poche ou la collection Folio, et ses poésies dans la collection Poésie Gallimard. Donc là, vous trouverez les poésies complètes sous le titre « Du monde entier au cœur du monde », et cela veut bien dire ce que cela veut dire, quelqu'un qui a parcouru le monde et qui a cherché partout la matière de son œuvre. C'est une œuvre extrêmement humaine. Blaise Cendrars cherche absolument à rencontrer, à connaître, à discuter, et son imagination fait le reste. Mais son œuvre est nourrie de ses expériences humaines. C'est quelqu'un qui a mangé de la vache enragée, qui a eu beaucoup d'argent, qui en a dépensé plus encore, qui a vécu une vie de bourlingueur d'ailleurs. Ça n'est pas pour rien que l'un de ses maîtres livres s'appelle Bourlinguer. L'homme foudroyé, c'est l'homme qu'il fut lorsqu'il a perdu sa main droite, son bras droit, donc obligé d'écrire de la main gauche. Et là, alors, il va découvrir la magie de la dactylographie. Les machines à écrire sont inventées et indiscutablement, sa machine à écrire est un appendice de sa personne. Ils sont inséparables, il ne la quitte jamais, elle le suit partout et il tape jour et nuit lorsqu'il se met à écrire sur sa machine à écrire, ce qui l'a d'ailleurs considérablement sauvé pour nous donner tout ce qu'il nous a donné. Voilà. Alors, en ces temps difficiles, je voulais vous dire que les livres sont nos amis. Frédéric Lefebvre disait « Mes amis et mes livres, et parfois mes meilleurs amis ont été mes livres ». Donc lisez Blaise Cendrars, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape avec un écrivain pèlerin de la planète. Ce sera le poète portugais Camões, qui a écrit toute une œuvre consacrée, les Lousiades, consacrée aux grandes découvertes, et qui est devenu un personnage extrêmement célèbre au Portugal. Voilà, à bientôt, bonne lecture.
C'était Rencontre autour d'un auteur par Nicole Villeroux, en partenariat avec la Bibliothèque diocésaine.